RCF.
Bonjour, bienvenue pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Pour cette chronique de rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Bernussou, président de la Maison de l'Europe en Limousin. Bonjour Daniel.
Bonjour Olivier.
Alors, vous souhaitez revenir sur la présidence française du Conseil de l'Union qui s'est tenue de janvier à juin 2022. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, pour une raison principale qui tient à un constat un peu attristé, je dois le dire, pour le pro-européen que je suis. Pendant 6 mois, la France a organisé l'activité européenne des ministres nationaux. Elle en a planifié les réunions préparatoires, elle en a présidé les sessions. Durant 6 mois, elle a représenté le Conseil dans les relations avec les autres institutions de l'UE et joué un rôle de médiateur très précieux. Pendant 6 mois, tout en s'inscrivant dans le programme de travail élaboré avec les 2 autres pays du trio, vous savez, la République tchèque et la Suède, la France a poussé des dossiers majeurs comme le numérique, le social, l'environnement et sans oublier évidemment la défense. Ainsi, sous la présidence française, près de 130 accords ont été conclus. Or, si cette forte activité a été appréciée et saluée hors des frontières, elle a été peu perçue par les Français eux-mêmes. Alors certes, la crise géopolitique avec la guerre russe en Ukraine à partir du 24 février et le cycle électoral présidentiel et législatif en France, surtout le deuxième trimestre, expliquent en partie ce faible intérêt de nos concitoyens. Mais le déficit d'information a sans doute joué tout autant. Aussi, Olivier, en guise de rattrapage, je vous propose un bilan de la présidence française, bilan bien évidemment non exhaustif.
Alors justement, quels sont les dossiers que la présidence française a pu faire évoluer ?
Alors la présidence française a permis des avancées incontestables, bien qu'inégales, dans plusieurs domaines prioritaires. L'avancée, me semble-t-il, la plus spectaculaire, concerne la régulation du numérique. En mars, le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord sur une législation concernant les marchés numériques. C'est le fameux DMA, Digital Markets Act. Je vous rappelle, il s'agit de mieux encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes, les GAFAM, afin de mettre fin aux pratiques déloyales de certaines de ces entreprises. En avril, l'accord a été trouvé sur les services numériques avec le DSA, Digital Service Act. Là, il s'agit de responsabiliser les grandes plateformes afin qu'elles freinent la diffusion en ligne de contenus illicites, pédopornographiques, terroristes, haineux et aussi de produits contrefaits ou dangereux. Après leur adoption formelle, ces 2 règlements sur les marchés numériques et sur les services numériques pourraient entrer en vigueur à la fin de l'année. Alors, dans le domaine social, le bilan est un peu moins spectaculaire. Certes, en juin, un accord est intervenu entre le Parlement et le Conseil sur la directive déjà présentée à l'automne 20 par la Commission pour un salaire minimum qui assure un niveau de vie décent. Cependant, du fait des conditions socio-économiques très variables selon les États membres, il n'y aura pas de rémunération minimale au niveau européen, mais des critères de définition communs et une convergence à la hausse des SMIC dans les 21 États membres qui en sont dotés, car je vous le rappelle, il y a 6 États membres qui n'en sont pas dotés, et ce, sans méchanceté vis-à-vis des salariés. Par ailleurs, la directive sur la transparence salariale qui vise à lutter contre les écarts de salaire hommes-femmes, femmes-hommes, comme vous voudrez, en entreprise, et les discussions sur la proposition de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes n'ont pas abouti.
Et y a-t-il des domaines dans lesquels le bilan est, disons, plus en retrait des ambitions affichées ?
Oui, il y en a. Je vais vous donner 2 exemples. S'agissant de la souveraineté économique, 2 accords ont été trouvés entre le Conseil et le Parlement. L'un, pour protéger l'économie européenne des pratiques déloyales des pays tiers, prévoit la mise en place d'instruments censés garantir la réciprocité sur les marchés publics. L'autre porte sur les aides d'État des pays tiers à leurs entreprises et sur les subventions qu'ils accordent aux grandes sociétés étrangères installées sur leur sol. Mais la présidence française a échoué à faire transposer dans le droit européen l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Alors, dans le domaine climatique et environnemental dont on parle beaucoup, en lien avec la question de la compétitivité industrielle européenne, les ministres des Finances se sont entendus en mars sur un mécanisme d'ajustement carbone, autrement dit une taxe carbone sur les importations à haute teneur en carbone. Dans les dernières heures de la présidence, le 29 juin, le Conseil a entériné l'idée de créer un nouveau marché du carbone pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, et il a approuvé l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035. Mais la guerre en Ukraine, avec ses lourdes conséquences, notamment énergétiques, rend ce bilan plus qu'incertain. Et on pourrait citer d'autres dossiers au bilan tout aussi mitigé, l'asile et la migration, ou encore, en dépit de la conférence sur l'avenir de l'Europe, la participation des citoyens au débat européen qui n'a pas été formidable.
Oui, mais comme vous avez cité tout à l'heure, il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, comment la France a-t-elle animé la réponse européenne à la Russie ?
Alors, l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, en plus de générer sidération et inquiétude, a bouleversé l'agenda européen. Elle a provoqué une intense activité diplomatique, sommet européen, réunion d'ambassadeurs, rencontre extraordinaire des ministres des Affaires étrangères, des ministres de l'Intérieur, des ministres de l'Énergie, et ce, au service d'un impératif absolument majeur, je tiens absolument majeur, forger à 27 une réponse commune, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas simple. Alors, durant les 6 mois, l'Union européenne a mis en place une série de mesures de soutien à l'Ukraine. Dès le 24 février, un premier train de sanctions, suivi jusqu'au début juin par 5 autres. Alors, outre les sanctions frappant plus d'un millier d'individus et une centaine d'entités impliquées dans la guerre, ont été décidées la fermeture de l'espace aérien aux avions russes, l'exclusion de banques russes et biélorusses du système de messagerie bancaire SWIFT, l'interdiction des échanges financiers avec la Banque centrale de Russie et des restrictions commerciales, notamment un embargo sur le charbon et le pétrole russe. Dès le 27 février, le Conseil a décidé de financer les livraisons d'armes à l'Ukraine et a mobilisé à plusieurs reprises un instrument extra-budgétaire créé en 2021 qui s'intitule la Facilité européenne pour la paix. Cet instrument a permis de compenser auprès des États membres les livraisons, compensées financièrement, les livraisons d'armes et d'équipements de protection à l'Ukraine. Début mars a été activée la protection temporaire pour l'accueil de quelques 7,5 millions d'Ukrainiens ayant quitté leur pays. En déclarant lors du sommet de Versailles en mars que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne, l'Union a ouvert la porte pour l'obtention du statut de candidat à l'adhésion, statut accordé en juin, ainsi qu'à la Moldavie. Enfin, effet direct mais ô combien important, la boussole stratégique qui définit les grandes orientations de la sécurité et de la défense européenne jusqu'en 2030 a été adoptée en mars. En discussion avant l'agression russe, elle a été modifiée afin de prendre en compte la menace russe et muscler la réponse européenne en complément de l'OTAN, bientôt élargie comme tout le monde, comme chacun le sait, à la Finlande et à la Suède. Ainsi, l'UE va-t-elle se doter d'ici 2025 d'une capacité de déploiement rapide de 5000 hommes. Alors au total, Olivier, malgré la crise ukrainienne, l'agenda global de la présidence française a été tenu. Et comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, la France peut être fière de sa présidence. Il est peut-être dommage que les Français n'en soient pas tout à fait convaincus.
Alors, merci. Nous terminerons donc la chronique sur cette citation positive. Merci à vous pour ce point précis sur la présidence française. Alors, dans 15 jours, vous allez retrouver une nouvelle voix. Une voix de notre nouvelle animatrice Europe qui remplace donc Estelle, celle de Marie-Lou Magne. Alors, Marie-Lou est avec nous. Elle va nous dire 2 mots. Donc bonjour Marie-Lou et bienvenue dans l'équipe et donc à la tête de cette nouvelle chronique RCF.
Bonjour Olivier et merci beaucoup de cet accueil et je suis très ravie de rejoindre l'équipe et de pouvoir partager ce moment tous les 15 jours avec vous.
Voilà, donc Marie-Lou, vous la retrouvez dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité de la Maison de l'Europe sur notre site internet europe-limousin.eu, aussi sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook, en tapant Europe Limousin, vous nous retrouverez. Bonne journée à tous.